Oh, papy.
Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais, présentée par Jean-Claude Tumba Kamanga.
Dialogue entre Congolais, ce soir, signature de 5 accords de coopération RDC-Angola. Quelle retombée pour le secteur pétrolier congolais? Quelle est la substance de l'accord d'exploration et production des hydrocarbures et sa retombée sur le secteur pétrolier congolais? Et quel impact de cet accord sur le budget congolais? Voilà les deux questions principales autour desquelles va tourner cette émission. Des questions des auditeurs aussi feront partie du débat. François Matiambe, auditeur de Radio Okapi à Bukavu, salue cet accord et souhaite que l'ensemble de ces accords passés récemment avec l'Angola profite réellement à tous les deux peuples et non à quelques individus seulement. Papi Wanou, l'un des ressortissants congolais en Angola, salue aussi cet accord et espère qu'il va améliorer le traitement dont les Congolais immigrés en Angola sont victimes. Kamwiji Muteba de Kikwit au Bandungu estime que cet accord est une distraction car les deux pays ne savent pas arranger leurs problèmes frontaliers, le cas de Chaïm Bouanda. Comme invité ce soir, nous accueillons le ministre des Hydrocarbures, Lambert Mende Omalanga. La zone maritime étant située le long du Bas-Congo, nous avons invité aussi dans cette émission le sénateur Raphaël Silouvangui du MLC, membre de la Commission économique et financière au Sénat. Il est vice-président du groupe parlementaire du Bas-Congo. Nous avons aussi le président de la société civile du Bas-Congo, le pasteur Jacques Bakoulou. À tous, bonsoir et bienvenue dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
Près de 5 accords ont été signés le 30 juillet dernier à Luanda dans la capitale angolaise entre la RDC et l'Angola. Il s'agit entre autres de celui ayant trait au secteur des hydrocarbures, des mines, un autre sur le transport et aussi une voie de règlement définitif du dossier Kaimba, pour qui, selon les deux parties, il n'y a pas eu occupation des territoires congolais par des forces angolaises, reste l'implication des puissances coloniales des deux pays. À propos du pétrole, justement, ces travaux, du 24 au 30 juillet à Luanda, en présence des deux délégations gouvernementales, conduites par leurs chefs d'État respectifs, Eduardo Dos Santos d'Angola et Joseph Kabila de la RDC, ces travaux donc ont conclu un accord pétrolier sur la création d'une zone maritime d'intérêt commun. Les grandes lignes de ce protocole d'accord dans ce condensé de notre confrère Guy Roger Nyampala.
La signature du protocole d'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun, ZIC en sigle, entre la RDC et l'Angola le 30 juillet dernier à Luanda ont été précédés par plusieurs travaux d'une sous-commission économique. Il a été convenu et arrêté plusieurs points qui se résument en 10 articles contenus dans ce protocole d'accord cité ci-haut. Dans son premier article, il est créé une zone d'intérêt commun, ZIC en sigle, entre la RDC et l'Angola. La répartition des intérêts entre les parties dans cette zone maritime prévoit un partage équitable, soit 50% pour la RDC et 50% pour l'Angola. La participation des opérateurs dans l'association sera repartie de façon légale entre les parties. Dans l'article 4 concernant les prospections forêts existant sur la zone d'intérêt commun, la République démocratique du Congo procédera au remboursement des charges engagées selon ses intérêts et suivant les modalités à convenir. Les modalités de répartition des intérêts détenus par la RDC et l'Angola dans le ZIC entre les sociétés nationales congolaises Cohydro et Sonangol et des investisseurs nationaux seront arrêtés par les deux parties. Selon l'article 9, ce protocole d'accord est régi par le droit international. Le même article précise que les deux parties s'accordent de rechercher des solutions amiables pour résoudre tout litige né de son application. L'article 10 stipule que ce protocole d'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans la zone d'intérêt commun prendra fin par l'achèvement des travaux des installations du dernier gisement en exploitation.
Monsieur le ministre des Hydrocarbures, Lambert Mende Omalanga, qu'est-ce que vous répondez d'abord à cette question de cet auditeur, Kamuji Muteba de Kikwit au Bandundu, qui lui estime que cet accord est une distraction car entre les deux pays, il y a encore des problèmes frontaliers, notamment à Chaïm Bouanda. Allô, monsieur le ministre Lambert Mende?
De quoi il parle? Vous me suivez?
Oui, vous êtes en ligne, M. Lambert Mende Omalanga.
Je pense que l'auditeur ne sait pas très bien de quoi il parle. Nous avons très bien identifié les problèmes qui pouvaient nous opposer à la République d'Angola. Le communiqué des deux gouvernements est très clair. il n'y a pas eu d'espère en son foie de franchissement de frontières. Et en ce qui concerne Kaemba, il a été décidé, pour rassurer tout le monde, de procéder à la fixation définitive des bornages avec le concours d'experts portugais, belges, congolais et angolais. Et je ne sais pas si l'auditeur a une meilleure solution que celle-là. C'est en tout cas celle que même le Parlement, qui était assez critique sur la question, a recommandé au gouvernement. Il ne faudrait pas qu'il se montre plus royaliste que le roi. Pour le reste, nous avons des problèmes de financer notre programme de reconstruction, les 5 chantiers du chef de l'État, et nous savons que notre espace maritime sur lequel nous pouvions fonder des ressources pétrolières était assez limité du fait de l'inexistence de la notion de frontières maritimes au moment où notre pays accédait à l'indépendance, de même que l'Angola, et nous suivons la procédure recommandée par les Nations Unies, qui est de négocier entre pays frontaliers au niveau des océans pour fixer les limites de frontières maritimes. C'est une négociation qui a commencé sous de bonnes auspices, parce qu'on a décidé de mettre ensemble cette zone d'intérêt commun dans laquelle nous allons exploiter. C'est-à-dire que nous augmentons l'espace sur lequel nous allons exploiter et extraire du pétrole pour le pays.
Oui.
Nous avons aujourd'hui une production assez marginale de 25 000 barils par jour. Si avec cette nouvelle exploitation, nous passons à beaucoup plus de barils, je ne sais pas ce qui permet à l'auditeur de penser que c'est banal et que ce n'est pas important pour le pays.
Oui.
La première fois que j'entends que gagner plus d'argent pour le trésor public n'est pas important pour le pays.
Voilà. Monsieur le ministre, puisque justement vous abordez directement la question pétrolière, comment en est-on arrivé à cet accord d'une zone d'intérêt commun, zone maritime d'intérêt commun entre la RDC et l'Angola? Est-ce que c'est la RDC qui a sollicité la signature de cet accord ou c'est l'Angola qui l'a offert?
C'est une démarche que nous avons entreprise, en fait, elle date de 2003 déjà, au moment du gouvernement de la transition. Une tentative avait été faite de dégager un couloir maritime, parce qu'il y a depuis 1982 des principes qui donnent droit à chaque État d'avoir une ouverture sur la mer en ce qui concerne l'exploitation pétrolière. 375 000 kilomètres de longueur sur la mer, sur toute la largeur du littoral. Or, lorsque on se rend compte que nous n'avons pas plus que 15 kilomètres sur notre littoral atlantique, on se rend compte qu'il y a une anomalie. Une anomalie qui est due au fait que ni les Belges ni les Portugais n'avaient fixé de délimitation des frontières maritimes parce que la notion n'existait pas et que la République démocratique du Congo, depuis qu'en 1982, les Nations Unies ont érigé cette notion de frontières maritimes, n'a fait aucune démarche. Il fallait qu'elle commence. La démarche a commencé en 2003. Malheureusement, elle a été mal conduite parce qu'elle a concédé un accord plus ou moins léonin. Ce que nous avons fait sur instruction formelle du chef de l'État, c'est de reprendre cet accord, d'en exclure toutes les clauses léonines et de proposer une nouvelle formule aux Angolais qui l'ont accepté. Et là, je dois dire que le président de la République a joué personnellement un rôle d'impulsion auprès de son collègue, ce qui a fait que, en dépit du fait que nous avons eu des négociations très laborieuses avec nos collègues, l'arrivée du président à Luanda a clarifié les choses. On a senti le poids du palais dans l'attitude de nos partenaires angolais, et les choses se sont passées, à mon avis, au mieux des intérêts des deux parties.
Merci, monsieur le ministre Lambert Mende. Nous avons dans ce studio le sénateur Raphaël Silouangui. Sénateur, qu'est-ce que vous pensez, vous, du contenu de ce protocole d'accord pétrolier?
Je vous remercie pour la parole que vous me passez. Le protocole d'accord, c'est un procédé, c'est une procédure qui existe entre les États. Donc, il est tout à fait normal qu'un pays comme le nôtre, comme tout autre pays, cherche à signer des accords dans tous les secteurs de la vie du pays, de manière à maximiser, bien sûr, les chances de son développement. Donc, nous ne sommes pas opposés au principe du protocole d'accord. Mais ce qui nous étonne dans le cas d'espèce, c'est que cet accord a été signé après 6 jours de travail de concertation à Luanda, et que cet accord, d'autre part, a été proposé par la partie congolaise, alors que l'initiative ZIP, lorsque nous lisons le texte sous nos yeux, apparaît être un document qui a été élaboré par la partie angolaise. Donc c'est là où nous trouvons quelque peu sous. En second lieu, cet accord, bien que l'ayant reçu tardivement, nous émettons quelques réserves s'agissant du point B du rapport du procès-verbal qui sanctionne les travaux préparatoires. Et il dit ceci, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour développer la zone d'intérêt commun sans se fonder sur les principes de délimitation des frontières. Ceci nous a fait tiquer. Car ceci veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous n'allons pas recourir à la délimitation de la frontière maritime, ce dont a parlé M. Mende. Si la situation a perduré jusqu'à maintenant, cela dénote que nos pouvoirs publics n'ont jamais pris au sérieux leurs responsabilités en matière de frontières. C'est là une situation extrêmement dangereuse. Donc nous ne sommes jamais préoccupés des pays d'indépendance à la délimitation de la frontière maritime du pays. Et donc, certains pays voisins se sont amusés, bien sûr, à pénétrer librement dans ce territoire, dans cette zone, et exploiter sans coup férir toutes nos richesses. Donc c'est là une responsabilité historique de la part de tous les pouvoirs publics que nous avons connus dans ce pays. Donc, lorsque la partie angolaise affirme qu'on ne se fonde pas sur la limitation des frontières, ceci me fait penser à la Constitution. Car nous avons une constitution qui est très claire, l'article 1er. Hein, à l'article 1er, il parle de l'intangibilité, il parle de l'indivision des frontières. Hein, nous faisons appel à l'article, aux articles 56, 57, 214, année 1 et 2 de la Constitution, qui dit que le territoire ne peut être cédé que par une loi et approuvé par référendum éventuellement. Donc, dans le cas d'espèce, lorsqu'il s'agit d'accords commerciaux, nous devons recourir à la sanction populaire. Or, apparemment, ici, il s'agit certainement que le Parlement aura ratifié cet accord, ou il sera soumis au Parlement pour ratification, mais je me demande si cette procédure sera poursuivie. Donc, je dis que le principe d'accord n'est pas mauvais, mais cet accord nous laisse perplexes, compte tenu du moment, compte tenu des circonstances, comme d'autres auditeurs l'ont souligné, les circonstances sont présentes, ceci nous apparaît un peu prématuré.
Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Nous avons aussi, dans cette émission, le président de la société civile du Bas-Congo, le pasteur Jacques Bakoulou. Est-ce que vous êtes du même avis que le sénateur, qui émet des réserves quant à la délimitation des frontières, ainsi que lui estime que le document serait élaboré par la partie angolaise?
Allô?
Vous êtes en ligne, pasteur Jacques Bakoulou, président de la société civile du Bas-Congo. Vous êtes bien en ligne. Vous avez suivi ma question. Est-ce que vous pouvez répondre?
Oui, je suis en ligne. Oui, vous pouvez répondre à la question. Parce que je suis quelqu'un qui a été en ligne.
Voilà, ça c'est, comme on dit, les aléas du direct. Disons que, voilà, il y a le sénateur Raphaël Silouvangui, sénateur du MLC, membre de la commission COFIN du Sénat, qui a émis des réserves sur le protocole d'accord pétrolier, notamment. Il estime que le document aurait été élaboré par l'Angola et que il y a aussi des problèmes quant à la délimitation des frontières maritimes qui ne semblent pas être clairement définies dans cet accord. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ok, merci pour la question. Je crois que vous m'appelez l'un de mon de passage dans ce sujet avec le ministre, c'est M. Lambert Mende, et que j'ai suivi ce problème-là. Et que pour moi, pour nous, en tant que civil dans le Bas-Congo, nous pensons que nous ne sommes pas contre ce protocole. Mais ce que nous voulons voir, la concrétisation, est aussi que toutes les causes soient maintenant une affaire de tout le monde. Que ça ne reste pas une affaire de Bibi, qui va faire publier dans le journal School, et même dans le journal privé, que les causes soient connues, et puis que dans le cadre de la transparence, nous voulons voir quand même cette répartition de recettes contribuer au développement d'abord des milieux, parce que nous avons vu que la zone continue, la partie côtière du monde est la plus développée de toute la partie côtière de l'Atlantique du monde entier. Et nous pensons que maintenant là, que nous pouvons accéder au groupe de peuple, ce qu'on a toujours défini, c'est que jusque-là nous sommes pourtant tous d'accord, mais nous voulons que cette fois-là, que notre gouvernement et les exploitants soient en mesure de développer un point. Et le pays, comme ça, le budget de la BFE
Merci, pasteur Jacques Bakoulou. Je rappelle que cette émission porte sur la signature de 5 accords entre la RDC et l'Angola, notamment parmi ces accords, il y a le secteur pétrolier. Quelle est la substance de l'accord d'exploration et production des hydrocarbures et sa retombée sur le secteur pétrolier congolais? Quel impact de cet accord sur le budget congolais? Nous recevons dans cette émission le ministre des hydrocarbures, Lambert Mende Omalanga, le sénateur Raphaël Silouvangi du MLC, ainsi que le président de la Société civile du Bas-Congo, Jacques Bakoulou. Nous revenons à vous, monsieur le ministre Lambert Mende. Vous venez de suivre les autres intervenants, notamment le sénateur Raphaël Silouvangi, qui émet des réserves quant à la délimitation des frontières maritimes. Et puis, pour lui, il a l'impression que le document a été élaboré par l'Angola. Et puis, il y a le pasteur Jacques Bakoulou, président de la Société civile du Bas-Congo, qui souhaite que les clauses de cet accord soient toutes connues, que ça se fasse dans la transparence et qu'on n'oublie pas la cité de Moanda. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le ministre Lambert Mende?
Oui, tout d'abord, je voudrais rassurer le sénateur Silouvangi. Son impression est totalement fausse. Je ne sais pas d'où il tire l'impression. Le document a été rédigé par la partie angolaise. Et s'il faut d'ailleurs remonter la petite histoire de cette négociation, ce sont ses compatriotes qui ont rédigé. Mes experts ont rédigé ce document. J'ai eu à le présenter en personne à mon homologue angolais. Je me souviens qu'on a eu pas mal de difficultés à trouver un traducteur portugais qui puisse leur donner la version portugaise. Donc c'est encore une fois ce syndrome de l'autoflagellation qui pousse certains de nos cadres à penser que les Congolais n'ont aucune capacité. S'il y a un document, ça doit venir de l'extérieur. Donc il faut vraiment tordre le cou à cette idée. Nous avons, nous Congolais, élaboré ce document, nous l'avons proposé à la partie angolaise, et ce n'est pas parce que ça a été accepté que ça ne peut pas avoir été élaboré par nous. Il faut cesser vraiment de s'auto-flageller comme ça. Alors, cette négociation n'a pas duré toujours. Je viens de vous dire que c'est depuis 2003 que le problème a été soulevé par la partie congolaise. Cela a été discuté. Je l'ai hérité lors de la remise reprise. Je suis allé en Angola il y a trois mois et demi, pour en discuter. Et donc, vous vous doutez bien que lorsque le chef de l'État, Joseph Kabila, fait son déplacement, c'est que nous sommes au sommet de l'iceberg. C'est que nous avons résolu le problème et le chef vient pour présider à la cérémonie de signature. Donc dire que ça s'est passé pendant 6 jours, c'est ne pas connaître comment se déroulent ces choses-là. Je voudrais ensuite dire, en ce qui concerne l'autre point de la critique du sénateur, selon laquelle nous avons inclus la question des frontières maritimes, que nous sommes là dans un accord purement commercial. Il sait, pour être un homme d'État, quelqu'un qui participe au Parlement, que ce n'est pas le rôle d'un ministre du pétrole de délimiter les frontières, qu'elles soient maritimes ou terrestres. Il y a des divisions des tâches au sein d'un gouvernement, au sein d'un État, qui font que les frontières relèvent primordialement de l'intérieur, des affaires étrangères, de la justice, et s'il y a du pétrole, on peut inclure aussi le ministre du pétrole. Alors, nous n'avons pas dit que nous ne prenons pas en compte, je ne sais pas à quel document il se réfère, la question des frontières maritimes. Nous avons conclu un accord commercial sans préjudice de la délimitation des frontières maritimes par ceux qui en ont la qualité. Et plus loin, j'ajouterai, ce qui l'a tué malheureusement, c'est qu'il n'a pas toute la documentation, que à la demande de la partie congolaise, nous avons fait mentionner dans le communiqué final et dans le procès verbal que les deux délégations décident ce jour de mettre en place une commission mixte à procéder à la délimitation de leurs frontières maritimes. Alors, comment peut-il penser que nous avons négligé la question de la frontière maritime alors que nous avons décidé de commencer justement à délimiter nos frontières maritimes qui n'ont jamais existé? Ce n'est pas que les Angolais ont pris nos terres, ça c'est aussi une fausse information. Il n'y avait tout simplement pas de notion de frontière maritime avant 1982, par la Convention de Montego Bay, qui oblige les États seuls à avoir leurs frontières maritimes à négocier. C'est ce que nous faisons. Évidemment, on a perdu beaucoup de temps depuis 82, mais ce n'est pas nous qui sommes au gouvernement depuis 82. Nous, dès qu'on est arrivé, on a mis en place cette négociation qui vient de commencer. Et nous disons, nous allons négocier, ça prendra le temps que ça prendra, mais nous pouvons commencer à exploiter une zone d'intérêt commun jusqu'à ce que la négociation va aboutir. Voilà comment nous avons procédé. Je partage les remarques du président de la société civile du Bas-Congo. Je veux le rassurer, nous avons adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives. L'industrie pétrolière en est une. Nous sommes prêts à publier tout ce qui est convenu avec la partie angolaise, et même mieux, nous irons au Parlement national pour faire avaliser, pour obtenir l'autorisation de ratifier cette convention, parce que notre constitution nous l'oblige.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Dernière partie de ce dialogue en congolais, quel impact de cet accord pétrolier entre la RDC et l'Angola sur le budget congolais? La suite après cette annonce.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
D'après un analyste économique, cette exploitation pétrolière entre la RDC et l'Angola peut bien profiter à la RDC. Pour l'EMS Kamwanya, analyste économique et chargé des projets au COPIREP, cet accord pétrolier d'exploitation du pétrole dans la zone maritime d'intérêt commun va augmenter l'afflux de recettes de la RDC. L'EMS Kamwanya répond au téléphone de Innocent Olenga.
Je pense que tout l'avantage qu'il y a à prendre, c'est d'abord un accroissement du flux de recettes que l'État retire de ce secteur-là, parce que vous savez, le système actuel utilisé est celui de convention pétrolière. Notre gouvernement a cédé l'exploitation de nos nappes pétrolières à des sociétés et les modalités de paiement qui est utilisée est pratiquement forfaitaire et dépend de ce que déclarent les pétroliers. Dans un tel système, vous n'avez pas le temps de contrôler si les déclarations faites sont exactes en rapport avec le niveau de la production, ce qui fait que le secteur pétrolier contribue faiblement. Alors, en signant ce contrat avec l'Angola, je crois qu'il y a moyen de bénéficier de l'expérience de ce pays pour voir comment elle gère le secteur pétrolier, comment ce secteur pétrolier peut accroître les volumes de recettes à destination de notre budget. Je pense que c'est l'avantage que nous pouvons atteindre directement, l'augmentation des recettes que l'État tire dans ce secteur-là.
Alors, monsieur le sénateur Raphaël Silouvangui, vous êtes du même avis que l'analyste que la RDC va gagner en recette.
Et je reviens d'abord, si vous permettez, sur la réponse du ministre Mende. Je ne sais pas si je crois que j'enfante la Constitution, mais l'article 214 de la Constitution dit ceci, les traités de paix, les traités de commerce, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Je n'invente rien. Donc là, je dis à M. Mendes, soyez à l'aise, je ne suis pas en train de lire un document qui n'existe pas. Donc, revenons sur l'impact. C'est toujours la même chose. Le Congo est un pays de production et non pas un pays producteur. Toutes les conventions que nous avons signées jusqu'à présent, que ce soit dans le domaine minier ou dans le domaine pétrolier, sont des conventions qui sont au désavantage des Congolais.
Comment cela? Pour le pétrole, par exemple?
Pour le pétrole, par exemple.
Avec l'Angola.
Nous avons signé des conventions d'abord avec les Perenco, hein, qui sont des sociétés privées. L'Angola nous vient de signer la convention. On ne nous dit pas clairement qui va exploiter. On dit ZIC. ZIC n'est pas une, n'a pas de personnalité.
C'est la zone d'intérêt commun.
Exactement. Donc, il faut qu'on nous détermine quels sont les opérateurs dans cette zone. Jusqu'à présent, les défauts ne le disent pas. On a cité Koulido, on a cité Sonangol, mais nous connaissons les performances des uns et des autres. Donc, nous devons un peu marquer un point d'arrêt. Donc, quand il s'agit d'exploitation du pétrole, on dit qu'on va avoir des ressources additionnelles. Celui dont il vient de parler maintenant, de Copérette, dit que les sociétés pétrolières nous disent ce qu'ils veulent. Mais la convention que qui vient d'être signée maintenant est également basée sur la même philosophie. Quand est-ce que nous allons changer notre mode de gestion du pétrole, disons, de nos ressources naturelles? Vous savez très bien que lorsque vous laissez au produit, disons, vous laissez à l'exploitant le soin de vous déclarer ce qui est les chiffres, eh bien, il le fait en fonction de ses intérêts. J'ai encore devant moi une commission d'enquête que M. Lambert-Mende connaît. Nous avions, à l'époque de la transition, commis une commission d'enquête à Mwanda sur la société Perenco et sur ce qui s'y passait. Vous connaissez la réponse, la requête, disons, la conclusion qu'a tirée notre commission d'enquête à l'époque? Il a dit ceci. Les paiements effectués par les pétroliers comparé au montant communiqué à la plénière, donc à l'Assemblée plénière du Sénat, par le ministre des Finances semble n'avoir pas atteint en totalité le compte général du Trésor. Ceci ne fait que confirmer les déclarations du ministre, etc. etc. Donc, il y a là un problème. Il y a là un problème. Si nous partons sur les mêmes bases, avec les mêmes types de conventions, il est à craindre que nous n'ayons rien et aucun effet sur le budget de la République. Peut-on dire aujourd'hui, puisqu'on dit que nous aurons un afflux, on ne doit pas toujours s'arrêter aux mots. Il faut qu'on nous dise clairement quelles sont les recettes que nous attendons de cette coopération. Lorsque vous lisez dans cette convention un article qui dit que l'Angola se refuse même de nous communiquer des informations sur les quantités pétrolières qu'ils ont découvertes. Donc, ça, c'est quoi? Il y a là un flou. On nous dit, l'Angola ne veut pas, il dit, pour des raisons de confidentialité. S'agissant du potentiel pétrolier, les accords de confidentialité ne permettent pas à la partie congolaise d'accéder aux informations techniques actuellement détenues par la partie angolaise. Mais si on est des partenaires, pourquoi doit-on se cacher des choses? C'est là le vrai problème qui se pose. On pourrait épiloguer longtemps là-dessus. Nous allons voir que dans cet accord, il y a des ordres et des non-dits qu'on doit pouvoir clarifier. Il faut qu'on nous dise exactement quelle est la portée de cette convention. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, merci. Sénateur Raphaël Sivouangué, monsieur le ministre, vous avez suivi le sénateur. Qu'est-ce que vous lui répondez, notamment, on ne sait pas qui il va exploiter dans cette zone d'intérêt commun comme opérateur, et que les informations techniques détenues par l'Angola, la RDC, ne sait pas y accéder. Vous êtes de cet avis, monsieur le ministre Lambert Mende?
Oui, tout d'abord, je voudrais m'inscrire dans la même ligne que le sénateur, s'agissant de la loi de ratification. C'est ce que j'ai dit, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il croit que je ne pense pas aussi comme ça. Que lorsque nous signons un contrat, un accord, une convention commerciale, nous devons venir au Parlement solliciter une autorisation de ratification. Et c'est par une loi que le Parlement autorise la ratification par le chef de l'État de la convention. Donc, c'est ce que j'ai dit et c'est ce qui va se faire. Maintenant, par rapport au contenu de la convention, je crois qu'il faut que les sénateurs comprennent qu'il faut que les choses arrivent en leur temps. Chaque chose doit être faite en son temps. Il faut d'abord un accord d'État à État. Vous savez, cette zone d'intérêt commun où nous mettons une partie de notre mer, les autres également, mais elle n'est pas un no man's land, elle appartient à des pays. Donc il faut que les pays se mettent d'accord. Une fois que les pays se sont mis d'accord, et c'est ce que nous venons de faire, ce que nous avons décidé à Luanda, faisons une exploitation commune de la zone d'intérêt commun.
Oui,
il y a une seconde étape.
Oui.
Celle-là intervient dans un mois.
Oui.
Où nous verrons, nos experts vont se voir pour discuter sur l'opérationnalisation. Oui. Tout ne se fait pas en même temps, le sénateur le sait. C'est un intellectuel, il sait qu'on ne met pas au monde un enfant et du jour au lendemain, on va fêter son diplôme.
Oui.
Il y a un moment où les États décident, puis ils choisissent les opérateurs, puis ils se mettent d'accord. Et à chaque étape, nous informerons nos clients. Alors, on ne peut pas faire croire aux gens qu'après avoir signé un accord d'unitisation, comme on vient de le faire entre deux États, automatiquement, on doit connaître quels sont les opérateurs. Et quant aux dispositions de confidentialité, il est évident que ce procès verbal a été écrit à un moment où nous n'avions pas encore signé l'accord. Et que, de par les règles de confidentialité, l'Angola n'était pas obligé de mettre à notre disposition des données. Dès lors que l'accord est signé, en dehors un mois, nous aurons accès aux données, parce que nous avons conclu un accord. Donc là, il ne faut pas réfléchir maintenant comme on pouvait réfléchir avant que l'accord n'ait été signé. Nous ne pouvions pas dire que nous avions les données avant d'avoir accès à ces données. Or, la signature conditionnait l'accès aux données. Ça aussi, je pense que tout le monde le comprend. Et donc, nous pensons que les choses se passent aussi correctement que possible.
Mmh.
Nous savons que nous venons de très loin. Nous savons qu'on a eu des problèmes dans ce pays. Mais il faut quand même accepter que nous pouvons aussi faire des choses correctement que ce que nous avons fait. Dans un mois, nous connaissons les opérateurs. Nous sommes en train de les sélectionner. L'Angola également sélectionne de son côté. Et nous dirons exactement comment les choses vont se passer.
Très bien. Alors, pasteur Jacques Bakoulou, président de la société civile du Bas-Congo, votre avis là-dessus?
Merci beaucoup, M. Jouisse. Moi, mon avis est clair. Je voudrais commencer par demander à son Excellence, M. le ministre, de compléter l'accord. Que cette exploitation puisse avoir des liens avec les
le reste, seulement si je peux dire ça, de la fossile, que notre entreprise, que notre raffinerie ait du travail, que notre raffinerie reprenne toutes ses fonctions normales, ça c'est pour l'intérêt même de notre pays. Alors, comme cela, la raffinerie ne prend pas, parce que normalement, la production pétrolière va augmenter. Et puis, la deuxième chose que j'ajoute, comme j'ai dit, nous ne sommes pas contre l'accord avec la société civile, mais nous voulons seulement que M. le ministre puisse aider cette exploitation à aider les Congos. J'ai parlé la fois passée du problème des compteurs. Comme a dit M. le sénateur, quelles sont les garanties que le gouvernement congolais va avoir au niveau de la production et au niveau de l'exportation, au niveau du comptage? Là, j'aurais aimé une équipe de techniciens congolais, soit ajoutée à cette équipe-là des Angolais. Parce que c'est vrai que nous sommes des partenaires, nous sommes des frères, mais en matière de bénéfices, il n'y a pas beaucoup de relations. Parce que là, chaque pays a fait de son côté. Mais que la RDC ne soit pas dupe, c'est un partenariat. Le minerai ou le pétrole nous appartient à tous. Il n'est pas dit que nous puissions seulement considérer les rapports de nos interbolais. Nous devons être conséquents. Ce rapport doit être sanctionné par la présence de notre équipe technique. Parce que j'ai dit la fois passée qu'il est quand même un problème, nous n'avons pas de matrices sur ce pétrolière national. Alors, maintenant que les politiques commune, qu'est-ce qui va garantir que les Angolais ne font pas le tromper extrêmement les termes? Voilà, donc, c'est ça mon problème. L'accord est là, nous ne sommes pas contre l'accord, mais j'aimerais que cet accord puisse permettre la réouverture ou le refonctionnement de notre raffinerie, et puis que une pipe de techniciens congolais soit mise en place pour le contrôle de cette exploitation. Et puis, on va penser aussi à une étude d'impact, que cette étude d'impact soit faite par nous, les Congolais, et que la société civile soit partie prenante. Ça ne sert à rien d'importer les gens qui ont fait l'étude. Nous avons l'expertise. On va faire l'étude d'impact socio-économique et environnemental pour réduire la mise de position dans cette partie du Congo.
Voilà, c'était le pasteur Jacques Bakoulou, point focal des ONG du réseau des ressources naturelles au Bas-Congo et président de la société civile dans cette même province. Alors, sénateur Raphaël Silouvangui, vous avez émis des doutes, des réserves sur les données confidentielles que l'Angola n'a pas livrées à la RDC quant au potentiel pétrolier. Vous avez suivi le ministre Lambert Mende qui vous dit que cela sera fait parce que le gouvernement... les deux gouvernements qui ont déjà fait un premier pas, ils sont en train de recruter des experts. Je crois que vous êtes d'accord avec lui que ça devrait se faire graduellement.
Je prends acte des propos du ministre Mende sur la divulgation à la partie congolaise des informations détenues par la partie angolaise sur la potentialité des gisements pétroliers. Comment voulez-vous que nous puissions calculer 50% qui peut que c'est prévu dans l'accord si nous ne connaissons pas les pourcentages. Donc, il est important que lorsque nous allons élaborer nos budgets ici, que nous sachions de quoi sera fait demain. Donc, il faudrait que le budget se base non seulement sur des éléments hypothétiques, mais sur des éléments véridiques, parce que nous ne sommes pas ici, à matière, comme l'a dit le président des ONG du Bas-Congo, on est ici devant des chiffres. Il ne s'agit pas de faire confiance à des copains ou à des amis. Il s'agit des États, des intérêts des États. On doit comprendre que tout doit être clair, que nous devons savoir exactement sur quoi nous devons nous tabler pour programmer notre développement, évidemment. Donc, je prends acte de ce que le ministre Bende dit, que ceci sera fait, et donc nous attendons, parce que nous savons que, comme il a dit, ce document nous présentera au Parlement pour examen, pour ratification, et qu'à cette occasion, nous aurons certainement à dire ce que nous n'avons pas pu dire aujourd'hui, ou certainement nous aurons des questions, alors que nous ne posons plus de questions dans ce domaine. Mais je reviens sur l'impact. Hein, donc, c'est important l'impact. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un budget qui est très faible. Comme vous le savez, c'est un budget qui ne répond pas aux exigences d'une nation comme la nôtre. Hein, donc, il faut absolument que nous puissions valoriser notre pays, valoriser notre budget. Nous ne pouvons pas tabler sur des faiblesses que nous connaissons aujourd'hui si nous voulons connaître un développement à deux chiffres. Donc, il est important que les accords que nous signons puissent être prometteur, puisse donner d'espérance, de l'espoir au peuple congolais. Il ne s'agit pas simplement de dire que c'est bravo, nous avons signé l'accord avec l'Angola, nous allons un flux d'argent, nous devons savoir dès maintenant à quoi nous devons nous attendre. Nous n'avons aucune information là-dessus, rien. Il y a le document qui est très bien signé, qui est très bien rédigé, mais nous ne savons pas à quoi nous attendre. C'est ça notre inquiétude. Nous ne pouvons pas nous limiter aux bons mots, mais nous devons avoir des chiffres. Il s'agit ici d'un domaine des chiffres. Nous devons savoir que cet accord va générer autant de recettes pour la République, autant d'avantages pour le pays. Nous pouvons poser la question là-dessus aussi. Puisque c'est depuis 20 ans à peu près que l'Angola exploite notre côte commune, qu'en est-il des recettes antérieures? Nous pouvons poser la question à la partie angolaise, nous pouvons poser la question au ministre Mende, qu'est-ce que nous faisons du passé? Table rase?
Voilà. Le ministre là, il vous écoute, il va vous répondre. Monsieur le ministre, est-ce que les intérêts à partager avec l'Angola, est-ce que c'est seulement des intérêts générés à partir de la signature de l'accord, ou bien l'Angola qui avait déjà commencé à exploiter cette zone maritime d'intérêt commun va aussi rétrocéder de l'argent à la RDC, monsieur le ministre Lambert Mende?
Oui, tout d'abord, je voudrais signaler qu'il s'agit effectivement d'une zone bien délimitée. Je crois que c'est 10 km sur la côte, sur 375 km. Nous avons encore à discuter de la frontière maritime qui concerne les 42-5 km qui restent pour déterminer notre zone économique exclusive et l'autre zone d'intérêt commun, parce que nous avons deux frontières maritimes avec l'Angola. Mais quoi qu'il en soit, la question de l'honorable Tshimubangi nécessite, appel de ma part, une précision. C'est que dans cette convention, il est dit clairement que le partage que nous ferons avec les Angolais est d'abord un partage 50-50, 50%, 50%. C'est vrai que pour savoir 50% de quoi, il faut avoir une idée des réserves qui sont contenues dans la zone d'intérêt commun. Et donc, nous avons une commission d'experts, il y en a 5 que nous allons désigner à partir de Kinshasa, et 5 que la partie angolaise désignera, et qui vont se voir en dehors. Et donc, le travail de ces experts...
Quelques petits problèmes avec la ligne de M. le ministre. On va revenir. Voilà. On va revenir à Monsieur le Ministre après. On a quelques petits problèmes avec la ligne, le temps de prendre les opinions des auditeurs. On reviendra à Monsieur le Ministre Lambert Mende, le temps d'arranger la ligne. Oui, Belinda Bosuma pour les opinions des auditeurs.
Oui, Romoza Mouéji de Kananga dans le passé occidental demande, après exploitation, quel pays entre la RDC et l'Angola sera détentrice des dividendes? Il y a beaucoup de contrats qu'on a déjà signés avec d'autres pays. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Notre gouvernement est sûr qu'avec l'Angola, ce contrat aboutira. David Ndibonera de Kavumu au sud Kivu, est-ce que ces accords signés entre l'Angola et la RDC sur l'exploitation pétrolière auront-ils d'impact sur le problème de Kaimba? Que disent les accords de coopération entre l'Angola et la RDC au sujet de la gestion de leurs conflits frontaliers? Et M. Jacques Mbala, notre pays attend de l'Angola des informations sur le domaine du pétrole. Mais les autorités congolaises elles-mêmes ne donnent pas à leur opinion publique assez d'informations dans ce domaine. Enfin, Maître Poi de Mbujimayi demande, comment peut-on conclure des accords dans le domaine pétrolier lorsqu'on ne connaît pas les frontières maritimes de notre pays?
Voilà, merci Belinda Bosuma. Nous avons vous en studio en ce moment, sénateur Raphaël Tshilubangi, le temps de rejoindre le ministre Lambert Mende des hydrocarbures. Alors, vous avez suivi ces auditeurs qui certains parlent, on ne le dit pas, mais apparemment, on soupçonne les marchés de dupes dans cet accord entre la RDC et l'Angola, sénateur Raphaël Tshilubangi.
Oui, je n'irai pas jusque-là, parce que je pense que quand même ceux qui nous représentent ou qui nous ont représentés à Luanda sont des personnes adultes, intelligentes. Hein, je ne peux pas, dénigrer la qualité de nos représentants, hein, parce qu'il ne s'agit pas ici de faire de la politique alimentaire.
Donc la RDC va gagner quand même dans cet accord.
Non, je veux dire que je ne dirai pas le terme de marché de dupes. Je n'ai pas dit ça, je ne dirai pas.
Mais est-ce que la RDC gagne?
Mais ce que je souhaiterais, c'est comme l'a dit le dernier intervenant, la dernière intervention que madame nous a lue, c'est que nous devons savoir exactement à quoi nous attendre. Il ne faut pas qu'il y ait des surprises. Il faut que dès maintenant que nous sachions que cet accord va apporter autant. Nous savons qu'au travers le monde, les chiffres sont cités. Les sociétés pétrolières qui travaillent en Libye, qui travaillent partout ailleurs, même en Angola, dernièrement l'Angola a inauguré une nouvelle plateforme, mais ils ont déjà annoncé quelles sont les quantités qu'ils vont devoir exploiter et pendant combien de temps. C'est ça qui nous intéresse. Par rapport aux attentes de la population, nous devons savoir que cette année, l'Angola, compte tenu de l'exploitation antérieure, va nous rétrocéder autant d'argent dont nous avons besoin pour notre budget. Au mois de septembre, nous allons pouvoir discuter du budget de la République pour l'année de 2008. Nous attendons à ce que le gouvernement nous présente un budget de 5-6 milliards. Mais ces 5-6 milliards pourront provenir de quoi? Que de nos richesses naturelles prouvées. Il y a des exploitations, il y a des conventions comme celle-là. Donc, c'est dans ce but-là, je pense, qu'on conclut ces accords. Si ce n'est que pour allier les mots, cela n'apporte rien. Aucun changement. Vous avez entendu les auditeurs. Ils sont tous dubitatifs. Ce qui veut dire qu'il y a un sentiment de malaise. Les gens ne croient plus aux accords. C'est la raison pour laquelle je demande au ministre Ménet d'être très clair. Lui qui a la gestion des hydrocarbures, il doit nous dire à quoi nous allons nous attendre. La transparence. Nous savons que le pays a adhéré à l'ITI, mais ici, ce n'est pas encore le niveau de l'ITI. C'est important que nous sachions que nous allons bénéficier de temps et alors notre budget sera bouclé en conséquence. Voilà, M. le sénateur.
Merci beaucoup, M. le sénateur, parce qu'on tend vers la fin de cette émission. Jacques Bakoulou, vous êtes du même avis. Vous avez suivi aussi les questions des auditeurs. Qu'est-ce que vous répondez en une minute, peut-être, parce qu'on est vers la fin de cette émission?
Merci beaucoup. Je trouve seulement une inquiétude. Je profite comme le ministre de la Santé, Mandela, qu'il faut poser la question au ministre du Plan qui est en train d'annuler le comité IPA qui a été mis en place sur décret. C'est un arrêté ministériel de façon comme je sais. Et il a lui de créer son comité qui nous attend jusque-là. Et comment est-ce que nous allons avoir confiance à la prochaine gestion de ce climat pendant que nous, on était sûr qu'en étant membre du comité national du pays, on allait être avec les autres. Et maintenant que ce comité n'existe plus. Alors, même pour que la RDC soit acceptée en tant qu'un pays membre de l'UPI, au niveau Oslo, en mi-septembre, il faut que cette question soit mise au cœur. Sinon,
Jacques. Donnez le temps, il reste qu'une minute, donnez le temps au ministre de répondre, monsieur le ministre. Une série de questions, évidemment, la raffinerie de Saucir avec l'ITIE. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela, évidemment, vous n'avez qu'une minute, monsieur le ministre, Lambert Mende.
Bon, Saucir nous tient à cœur. Vous savez, on peut développer une raffinerie, même avec du brut qu'on achète sur des prix préférentiels d'État à État. Il ne faut pas nécessairement avoir du brut soi-même. Donc, Saucir nous tient à cœur, nous en parlons avec nos partenaires. Je voudrais peut-être dire un mot concernant les inquiétudes que je sens affleurer la possibilité qu'il y aurait de déterminer au centime près combien d'argent nous attendons. Non, dans le secteur pétrolier, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des réserves qu'on peut estimer, mais pour déclarer des réserves prouvées, il y a des interventions technologiques préalables et qui ont leur prix. Et d'ailleurs, nous nous sommes engagés auprès d'Angola à leur rembourser toutes les zones qu'ils ont pu explorer. Et je dois préciser que dans cette zone d'intérêt commun, je n'ai pas à voir connaissance.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre Lambert Mende. C'est la fin de ce dialogue entre Congolais. Innocent Olinga a préparé cette émission. Réalisation Nadine Foula et la technique Paulin Munkeo. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci de nous avoir suivis.